Radio Prague, les informations. Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. On commence avec la crise gouvernementale. Le Premier ministre invite ses partenaires de la coalition à un dîner informel. La députée Kristina Kocsi a été mise en cause dans une tentative de putsch au sein des affaires publiques. Et puis enfin, disparition de Miroslav Tichy, Diogène Morave et photographe voyeur. Le Premier ministre Petr Nečas a convié les leaders des trois partis de la coalition gouvernementale à un dîner informel ce mercredi soir à la Villa Kramarj, siège officiel du Premier ministre. Chaque parti sera représenté par quatre de ses responsables. L'objectif de Petr Nečas, qui exige le départ de trois des quatre ministres du parti Affaires publiques, est de trouver une solution à la crise gouvernementale actuelle. Bien qu'il soit tenu de respecter les décisions du chef du gouvernement selon la Constitution, Le président de la République, Václav Klaus, refuse cependant toujours d'entériner ses départs. Le chef de l'État exige de la part du gouvernement un plan de sortie de crise avant d'accepter un remaniement. Plus de détails dans quelques instants dans les faits événements sur cette crise gouvernementale. Et puis Kristina Kocsi, députée exclue la semaine dernière du parti Affaires publiques après ses révélations concernant des dons en liquide du fondateur du parti, Vite Barta, a tenté d'effectuer un putsch au sein des Affaires publiques en collaboration avec le Parti civique démocrate, ODS, principale formation de la coalition gouvernementale. C'est ce que révèle ce mercredi le site internet de l'hebdomadaire Tiden.cz qui fait référence à un enregistrement secret réalisé dans un restaurant du centre de Prague. Kristina Kocsi, qui a refusé de commenter l'information, se trouvait alors en compagnie de deux de ses anciens collègues des affaires publiques. Sur l'enregistrement, Kristina Kocsi aurait notamment fait part de ses liens avec le chef du groupe parlementaire ODS, Petr Tluchorj. Lundi, Kristina Kocsi avait indiqué à la presse qu'un système d'écoute avait été trouvé dans son appartement. La police a ouvert une enquête. Le photographe Miroslav Tichy est décédé à Kiev, en Moravie, à l'âge de 84 ans. Découvert sur le tard, Miroslav Tichy a photographié pendant une trentaine d'années les femmes de sa petite ville, sous le manteau, avec des appareils photo fabriqués par ses soins. En dépit du fait qu'il ait toujours refusé d'exposer ses œuvres, celles-ci ont été présentées au public pour la première fois en 2005 par l'intermédiaire de Roman Buchsbaum, ce qui a d'ailleurs créé de nombreuses polémique sur la légitimité de celui-ci. En tout état de cause, nombre de spécialistes s'accordent aujourd'hui pour dire que Miroslav Tichy est l'un des photographes tchèques les plus importants du XXe siècle. Culture toujours, le long métrage intitulé Kajinek, réalisé par Petra Jackel à partir de l'histoire vraie de Jerzy Kajinek, a remporté le prix décerné par le jury jeune de la 5e édition du Festival du film policier de Liège en Belgique. Jerzy Kajinek est sans doute le prisonnier le plus célèbre de République tchèque. Ce film a déjà été vu par près de 800 000 spectateurs selon les statistiques officielles et est distribué dans plusieurs pays européens. On passe au sport. Pour la première fois de son histoire, le HC Otselarji Třinec a remporté le titre de champion de République tchèque de hockey sur glace. Sur sa glace, mardi soir, Třinec a battu Vítkovice 5-1 dans le cinquième match de la finale, qui se joue au meilleur des sept rencontres. Grâce à cette quatrième victoire, les métallurgistes de Třinec ont remporté la série de la finale 4-1. Il s'agit du premier titre conquis par Třinec en 16 ans de présence dans l'Extraliga, l'élite du hockey tchèque. Et puis en tennis, Tomáš Berdych a remporté son premier match et disputé cette saison sur terre battue en battant mardi le Belge Olivier Rochus en 2-7, 6-2, 6-3 au deuxième tour du Masters 1000 de Monte Carlo. Tête de série numéro 5 du tournoi, le tchèque demi-finaliste à Roland-Garros la saison dernière sera opposé au croate Ivan Ljubicic en 8e de finale. L'autre joueur tchèque participant au prestigieux tournoi monégasque, Radek Štěpánek, a lui été éliminé mercredi par l'écossais Andy Murray en 2-7, 6-1, 6-4. On termine avec un mot de météo. Le temps reste couvert et pluvieux sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Vincennes. Des chutes de neige sont également attendues à partir de 600 mètres d'altitude. Les températures sont stables et restent plutôt froides. Elles varient en effet entre 5 et 10 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie. Tout de suite, retrouvez Václav Richter pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Václav Klaus bloque la solution de la crise gouvernementale proposée par le Premier ministre. Les sections tchèques des lycées en France ont célébré leur 90e anniversaire. Tels sont les deux premiers thèmes de cette émission. Ensuite, dans la rubrique chapitre de l'histoire, nous évoquerons la vie des émigrés tchèques en France entre 1948 et 1968. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la section française de Radio Prague et vous sera présentée aujourd'hui par Václav Richter. Merci de rester avec nous. La crise de la coalition gouvernementale tchèque se poursuit et semble pour le moment sans issue. Les solutions proposées par les uns sont aussitôt catégoriquement rejetées par les autres. Le président de la République, lui, ne facilite pas aux hommes politiques leur tâche et l'opposition constate que la seule issue honnête de cette situation serait des élections anticipées. Le scandale au sein du gouvernement a éclaté après les déclarations des membres du parti Affaires publiques, Jaroslav Škarka et Kristina Kocsi, sur les tentatives du vice-président du parti et ministre des Transports, Vít Bárta, d'acheter leur loyauté par d'importantes sommes d'argent. La situation d'Affaires publiques est devenue intenable après les révélations du journal Mladá Fronta Dnes, selon lesquelles Vít Bárta aurait utilisé l'agence de sécurité ABL pour infiltrer le parti, pour réaliser ses intérêts économiques et pour accéder aux contrats publics. Face à ces révélations scandaleuses, les deux membres de la coalition, le parti civique démocrate ODS et le parti Top 09, ont demandé la démission des ministres d'affaires publiques liés avec l'agence ABL, dont Vít Bárta. Ce dernier a déjà donné sa démission, mais l'ODS et le Top 09 réclament encore le départ du ministre de l'Éducation, Joseph Dobeš, et surtout celui du ministre de l'Intérieur, Radek Jón. Les négociateurs d'affaires publiques opposent cependant une résistance farouche à une telle solution et les négociations se trouvent dans l'impasse. Le premier ministre Petr Nečas de l'ODS refuse absolument de tolérer Radek Jón au poste de ministre de l'Intérieur.
Je dois dire que c'est pour nous une condition incontournable. Nous ne pouvons pas imaginer que le parti Affaires publiques puisse assumer la responsabilité de ce ministère après les révélations ayant démontré dans quelle mesure les représentants de ce parti sont liés aux structures de l'agence de sécurité privée ABL. La solution concrète de cette situation fera l'objet des prochaines négociations de la coalition gouvernementale.
L'intransigeance des deux partis risque d'aboutir à l'effondrement de la coalition gouvernementale. Le parti Affaires publiques, selon son président Radek Jón, refuse cependant d'assumer cette responsabilité.
Nous ne voulons pas faire chuter le gouvernement. Notre attitude est responsable. Tous les gens responsables dans ce pays appellent les hommes politiques à négocier. Nous voulons négocier, mais aucune solution à la crise n'est en vue. Nous ne pouvons absolument pas accepter que le ministère de l'Intérieur soit confié à l'ODS parce qu'on y dirige des enquêtes sur des affaires concernant l'ODS.
Le chef du gouvernement Petr Nečas a quand même présenté au président de la République Václav Klaus les démissions de Vít Bárta et les révocations de Radek Jón et de Jozef Dobeš. Le président ne les a cependant pas acceptées en déclarant qu'il voulait d'abord connaître la solution envisagée par le premier ministre et les partis de la coalition pour mettre fin à la crise gouvernementale.
C'est à eux d'agir. Ils n'ont fait que la moitié du premier coup, si vous me permettez cette jolie métaphore inspirée par les échecs. Et j'attends maintenant qu'ils achèvent le premier coup.
La réaction de Petr Nečas ne s'est pas fait attendre. Il a exhorté le président à respecter ses devoirs constitutionnels et à accepter les démissions. Václav Klaus, lui, a rétorqué que les tentatives du premier ministre de mettre fin à la crise gouvernementale sont, nous citons, sans valeur et mauvaises. Il semble donc qu'à côté du conflit au sein de la coalition, se dessine aussi un différend sérieux entre le chef d'État et le chef de gouvernement, ce qui, évidemment, ne fait qu'aggraver la crise politique dans le pays. Vendredi 8 avril, les sections tchèques des lycées en France célébraient leur 90e anniversaire au Palais Buquois à Prague. Ce dispositif a été mis en place à l'automne 1920 au lycée Carnot de Dijon. Reportage de Magda Rosinkova.
On était un peu enfermés parce qu'au lycée c'était très très dur pour nous. On était habitués à plus de liberté en chez nous, naturellement. Mais c'était comme ça. C'était de bons souvenirs.
Vladimir Beneš a 81 ans. Il a étudié au lycée Carnot pendant 2 ans, entre 1946 et 1948, avant la fermeture des sections tchèques, qui existaient également à Saint-Germain-en-Laye et à Nîmes, par les autorités communistes. Rouvertes à la fin des années 60, et ils ont été fermées à l'époque de la normalisation et à nouveau ouvertes au lendemain de la révolution de velours. À présent, une quarantaine d'élèves tchèques, dûment sélectionnés, effectuent leur scolarité en classe de seconde, première et terminale au lycée Carnot de Dijon et au lycée Alphonse Daudet de Nîmes. Lukáš Macek, aujourd'hui directeur du premier cycle européen de Sciences Po Dijon, a été parmi les premiers élèves tchèques qui ont mis le cap sur Dijon au début des années 90.
Je suis arrivé à Dijon en septembre 92, donc c'était effectivement 2 ans après la chute du communisme. Ce qui était surtout marquant, c'est qu'à l'époque, on sentait beaucoup de réelles différences encore, c'est-à-dire, je pense que pour nous qui arrivions à cette époque-là, il y avait un vrai dépaysement, il y avait la découverte d'une société différente, de la société de consommation. On sentait un décalage important et sans doute on vivait cette expérience d'une manière beaucoup plus intense parce que c'était quelque chose de beaucoup plus exceptionnel. C'est aussi parce qu'on sortait d'une enfance où, enfin, au moins dans mon cas, mes parents me disaient toujours que, hélas, je n'aurais jamais la possibilité de voyager à l'Ouest, étudier encore moins. Donc il y avait un peu cet enthousiasme d'un monde qui s'est ouvert. Bien évidemment, aujourd'hui, quand je vois des étudiants qui viennent à Carnot, des Tchèques de Carnot d'aujourd'hui, c'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout... Alors ça reste toujours aussi motivant, je pense, mais c'est très différent.
Depuis 1920, plus de 400 Tchèques ont suivi leur scolarité au lycée Carnot de Dijon. Nous écoutons le proviseur du lycée, Gilles Cazenave.
C'est un dispositif exceptionnel qui n'entre pas du tout dans le cadre habituel des échanges, parce que ce sont des élèves qui, à Dijon, comme à Nîmes d'ailleurs, s'engagent pour 3 ans. Donc ils vont suivre complètement leurs études de lycée, ils vont être préparés à un bac français et en même temps, grâce à un examen de tchèque, au bac tchèque. Donc ils vont acquérir une double culture, une double éducation et un double diplôme. Et c'est tout à fait exceptionnel, ça ne se fait pas sous cette forme-là avec d'autres pays.
Quelle est leur principale difficulté quand ils arrivent à Dijon ?
Il ne semble pas avoir beaucoup de difficultés. Je pense que la difficulté, c'est de ne pas trop rester entre Tchèques. En tout cas, ils arrivent à s'adapter dans des conditions très remarquables. Ils arrivent souvent avec un niveau scientifique et un niveau de langue française assez remarquable. Et ils vont après devenir généralement parmi les meilleurs élèves du lycée.
Hanna Niemeczkova a passé son baccalauréat en 2009 au lycée Alphonse Daudet de Nîmes. À présent, elle étudie les sciences politiques et le journalisme à Prague. Elle explique quel a été pour elle le principal avantage de ses études secondaires en France.
Le système tchèque, c'était beaucoup plus fondé sur les informations et l'entraînement de la mémoire. Et en France, quand même, il y a aussi ça, bien sûr, mais on essaie d'entraîner aussi l'esprit critique, de construire un propos, d'argumenter bien, de savoir, et aussi au niveau des matières scientifiques, il y avait beaucoup plus de travaux pratiques. On savait pourquoi on apprend ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en réalité, donc ça c'était très bien. C'est vrai que maintenant, quand j'ai fait mes études supérieures en République tchèque, je vois un peu des différences entre moi et mes copains de classe. Même si on est tous tchèques, j'ai peut-être une approche un peu différente envers le travail en général, envers mes études.
Plus de détails sur les sections tchèques en France sur le site www.dijon-nimes.eu.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Tout de suite, dans la deuxième partie de cette émission, plongeons dans le passé tchèque avec un détour par la France. Après le coup de Prague de 1948, nombre de Tchèques ont fui le communisme et se sont réfugiés dans divers pays. Parmi ceux-ci, la France. C'est le sujet de la rubrique historique du jour, proposée aujourd'hui par Anna Kubista.
Chapitre de l'histoire.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique historique. Lucie Reitingerova est étudiante à Olomouc et elle prépare à l'heure actuelle une thèse sur l'émigration tchécoslovaque en France de 1968 à 1989. Un travail qui est en réalité la suite de son travail de master où elle s'est intéressée à cette même émigration juste après le coup de Prague de 1948 à 1968. Elle a parlé pour Radio Prague de ce sujet et elle nous a expliqué comment elle était venue à s'y intéresser. On écoute Lucie Reitingerova.
Déjà au lycée, je me suis intéressée aux relations franco-tchécoslovaques. Après, j'ai décidé d'aller étudier le français et l'histoire. Et quand j'ai fait mon travail de licence, j'ai par hasard rencontré M. Fauchet. Qui m'a parlé de son père, de lui-même, de l'amitié franco-tchécoslovaque. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens très intéressants, qu'il y a un exil tchèque ou tchécoslovaque qui vit en France et que je ne connais pas du tout. Donc je me suis décidée de s'intéresser à cette problématique. Voilà.
Pour parler un petit peu de cette première vague, finalement, parce qu'on peut dire que c'est une première vague entre 48 et 68, est-ce que vous pourriez un petit peu faire une typologie des personnes qui émigrent? C'est qui? C'est des hommes politiques? C'est des artistes? Dans quelles conditions, en général, émigrent-ils? Est-ce que vous pourriez citer quelques personnes, un peu des personnes phares de cette première vague? Et puis également me dire si en fait ce sont des personnes qui sont liées par exemple à des partis politiques, en particulier tchèques.
En 1948, il y avait beaucoup de personnes qui sont émigrées et il y avait une situation en Europe très difficile parce qu'il y avait beaucoup d'émigrés, des gens sans la nationalité. Et en général, l'exil tchécoslovaque a voulu partir aux États-Unis, mais il y avait des visas et où il faudrait avoir le visa, mais c'était très difficile de les gagner. La plupart des migrations est partie en Europe, en France, en Allemagne, où il y avait des camps réfugiés, mais l'immigration n'a pas voulu rester en Allemagne. Tout le monde a voulu d'aller aux États-Unis. Et la France, la Grande-Bretagne, c'était peut-être le compromis pour eux. Donc en France, il y avait un exil très fort, ou une immigration très forte, en 48-49, au début des années 50. Mais après, la plupart de ces gens sont partis aux États-Unis.
Donc en fait, la France était une sorte de, finalement, d'arrêt temporaire sur la route des États-Unis.
Oui, c'est ça. Juste un peu de gens ont resté en France. Et c'était peut-être aussi les raisons personnelles pour qu'ils se sont décidés de rester là-bas. Parce que c'était, par exemple, le jeune homme qui s'est marié avec une Française, donc ils sont décidés de rester en France. Ou bien ils ont gagné un travail très intéressant, donc ils se sont dit pourquoi commencer de nouveau aux États-Unis quand si j'ai le travail en France. Donc si quelqu'un a resté en France, c'était soit des raisons personnelles ou des raisons professionnelles, soit qu'ils ont un lieu très proche, c'était le cas de Hubert Tripka.
Qui faisait partie du gouvernement tchécoslovaque avant le coup de Prague, en fait.
Oui, oui. Sa femme était une Française, donc c'était, pour eux, c'était une certitude de rester en France. Mais c'est vrai que Hubert Ripka a beaucoup voyagé.
Ces personnes qui s'installent, dont vous dites qu'ils restent souvent pour des raisons personnelles, est-ce que c'est des personnes qui se côtoient? Est-ce que finalement ils forment une communauté soudée, homogène? Est-ce qu'ils se rencontrent? Et s'ils se rencontrent, dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des lieux de rencontres privilégiés dans la mesure où ils sont dans la même ville? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas tous à Paris.
Je dirais que un point commun pour eux, c'était Paris, que la plupart d'eux ont resté à Paris. Il y avait aussi les autres lieux, mais la plupart des émigrés ont resté à Paris. Au début, dans les années 50, les gens ont encore cru qu'il y aurait de revenir bientôt en Tchécoslovaquie. Donc, ils se sont organisés politiquement. Il y avait des partis politiques, la démocratie sociale, les chrétiens, en fait presque tous les partis qui ont existé en Tchécoslovaquie avant la coup, mais il y avait le conseil de la Tchécoslovaquie libre, le siège de la Tchécoslovaquie libre était aux États-Unis, mais il y avait aussi le siège parisien. Ils se sont organisés, ils ont essayé de faire quelque chose pour libérer la Tchécoslovaquie, mais à la fin des années 50, en fait, le point très important était l'insurrection de Hongrie.
En 1956.
Oui, en 1956, quand le monde n'a pas réagi. Donc, je dirais qu'on peut voir un peu un certain type de résignation. Jusqu'à 1956, le mouvement politique était très fort, mais puis ça, c'est pas si fort après 1956. Et je dirais qu'après, l'exil tchécoslovaque à Paris, c'est un exil des individualités très fortes qui se sont essayées de faire quelque chose, mais pas
de manière organisée. En fait, c'est des individus qui tout seuls en fait font un travail finalement de résistance entre guillemets, mais de manière très individuelle.
Oui, comme ça, parce qu'il y avait les groupes en 1960 par intégrer par
il est revenu des États-Unis déjà pour fonder Svedetsvi à Paris.
À Paris, donc, il y avait le groupe de Svedetsvi, il y avait l'autre groupe de la mission catholique qui était aussi très fort, qui a essayé d'aider. Puis il y avait par exemple M. Vrzala qui a travaillé dans les structures européennes. Il était très actif dans les structures des chrétiens européennes. Donc, il a voulu que la Tchécoslovaquie reste dans l'Europe, que l'Europe n'oublie pas la Tchécoslovaquie. Puis il y avait un mouvement ouvrier qui était aussi très fort. C'était par exemple Paul Bartoni qui a travaillé dans les forces ouvrières. Il a essayé de relever les fautes du communisme et de montrer que c'est pas ce qu'on pense.
Donc il y avait quand même une opposition de gauche, quoi, finalement,
oui.
En fait, au régime communiste, mais en exil, de nouveau.
Oui, en exil, de nouveau, oui. Oui, puis il y avait le groupe de monsieur et madame Dubénové, qui ont aussi, c'était la même chose pour madame et monsieur Fischera. Donc il y avait plutôt des groupes qui ont essayé de faire quelque chose d'après la manière qu'ils ont pensé que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, mais pas un
mouvement commun.
Oui,
quoi.
Oui. Mais ils ont coopéré, mais il n'y avait pas une seule organisation qui a travaillé systématiquement pour faire quelque chose.
D'accord. Comment ces personnes qui arrivent en France sont-elles accueillies par les Français, en fait, déjà tout simplement par l'administration française, tout bêtement?
Donc ça dépend, parce que chacun a ses propres expériences, mais il me semble qu'en 1948, l'atmosphère en France n'était pas favorable pour les exilés, pour les émigrés. Je dirais que...
Le Parti communiste déjà français était très fort.
Oui,
peut-être
oui.
que ça n'aidait pas forcément à l'accueil de personnes qui fuyaient un régime communiste.
Oui, c'est ça, parce que, comme vous disiez, il y avait un très fort mouvement communiste. Et les gens qui ont cru cette communiste, ils ont dit, mais vous avez un paradis sur terre, pourquoi vous avez quitté? Peut-être vous étiez les fascistes, ou pourquoi vous avez quitté la Tchécoslovaquie, c'est bizarre. Soit ça, ou bien il faut toujours penser que c'était l'Europe après-guerre, il y avait une pauvreté, parce que la France était...
C'était détruite finalement.
Oui, détruite, donc c'était très difficile de vivre. Donc il y avait, les Français, on était pauvres, et donc il n'y avait pas la place encore pour les émigrés qui sont, qui ont faim, qui ont voulu manger aussi, parce que c'était difficile.
Fin de la première partie de l'émission en langue française de Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.